France Inter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Tous les 15 jours, nous ouvrons un dossier, c'est la parenthèse, au milieu des initiatives. Un dossier avec des groupes d'observateurs, néanmoins arpenteurs de terrain. Et comme à chaque rendez-vous, nous faisons appel aux informations et ressources dont dispose le labo de l'ESS, Think Tank, est un des principaux promoteurs d'une économie plus juste, en accord avec l'homme et l'environnement. Et c'est son président, Hugues Sibylle, qui est notre interlocuteur. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le sort des coopératives dont de nouvelles formes émergent et se répandent actuellement à grands pas.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Hugues Sibylle, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hugues, président du think tank du labo de l'ESS, on a rendez-vous régulièrement avec vous, avec des voix de ce think tank.
C'est un plaisir de vous retrouver.
Merci, c'est partagé. Et nous allons parler des nouvelles coopératives. Alors d'abord du système coopératif. Les nombres varient d'une fiche à l'autre. On dit 21 000 entreprises coopératives aujourd'hui en France.
Oui.
1 million d'emplois et 24 millions de sociétaires.
Oui.
Donc pour l'instant, tout est juste.
Donc c'est déjà un poids économique important.
Très.
C'est à la fois des salariés et des acteurs économiques.
Oui. Pourtant, Hugues, d'une coopérative à l'autre, le mode d'organisation et de gestion n'est pas nécessairement le même. Quand on parle du système coopératif, on dit la gouvernance est démocratique, une personne, une voix, et il y a une prise d'intérêt de chacun au bon fonctionnement de la coopérative.
Oui, les coopératives sont différentes, mais elles ont quelques règles communes. Moi, j'en retiens deux. La première règle, c'est que dans une coopérative, on a le droit de faire des bénéfices. Mais une grande partie de ces bénéfices restent dans l'entreprise et sont ce qu'on appelle mis en réserve. Et ces réserves sont impartageables. Ça devient la propriété collective de l'entreprise. Et puis grâce à ça, on peut investir. Et donc, c'est une force.
Et dans les proportions, en moyenne, Hugues Sibylle, c'est quoi? C'est 30% des bénéfices dans ce fonds de réserve?
Ça dépend, mais ça va jusqu'à 50%. Donc, quand l'entreprise va bien, elle peut mettre de côté et donc affronter les temps plus durs. Et puis, il y a une deuxième règle importante. C'est ce qu'on appelle le principe une personne. Donc, une personne, une voix, ça veut dire que chacun participe à la décision. Et ça, c'est quand même deux différences assez importantes par rapport aux entreprises classiques.
Bien sûr. Alors, vous avez donné quelques exemples. Donc, on a les différents grands groupes coopératifs, coopératives d'entreprises, agricoles, commerçants, coopératives d'usagers, alors là, de consommateurs, de la HLM, par exemple, coopératives scolaires, les coopératives de production, les SCOP que vous avez citées, ou les coopératives d'activité d'emploi, les coopératives multisociétariales dont font partie les SIC.
C'est ça, les coopératives d'intérêt collectif dont je suis très fier parce que j'ai participé à la rédaction de leur loi il y a quelques années.
Ah bah ça tombe bien parce qu'on pourrait en parler un tout petit peu plus précisément. Et puis les banques coopératives. Alors justement, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en fait, c'est un autre canevas par rapport à la SCOP. On peut avoir des partenaires extérieurs à l'entreprise qui financent le fonctionnement
c'est
de
ça.
La coopérative.
Dans la plupart des coopératives, en fait, il y a une partie des sociétaires qui sont uniques et qui dirigent l'entreprise. C'est soit des salariés, soit des agriculteurs, soit des artisans, mais il n'y a qu'un type de groupe de coopérateurs. Dans une coopérative d'intérêt collectif, il y a plusieurs types d'associés. Il y a les salariés, mais il peut y avoir aussi les bénéficiaires, les usagers, il peut y avoir des associations locales, et il peut même y avoir la collectivité territoriale qui, depuis la loi de 2014, peuvent mettre jusqu'à 50% du capital de la coopérative. Donc, c'est la première fois qu'on a une coopérative multisociétaire. Certaines s'organisent en collège, donc à l'intérieur de ces multisociétaires, il y a le collège des salariés, le collège des usagers, le collège de la collectivité locale. Mais c'est très intéressant parce que finalement, notamment vous, Philippe, qui vous êtes assez très près au territoire, on a des coopératives d'intérêt collectif qui sont très ancrées sur le territoire et qui participent au développement territorial.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Hugues Sibyl, président du labo de l'ESS avec nous dans les carnets de campagne pour annoncer le développement du système coopératif. On va parler de nouvelles coopératives. Mais comme vous aimez bien les questions d'auditeurs, alors il y a une remarque de François qui s'en souffre. Hein. En France, écrit-il dans nos annuaires des entreprises de l'économie sociale et solidaire, nous comptons entre autres le groupe Crédit Agricole, coopérative agricole Maïs Adour, numéro 3 en France, qui possède 10 filiales agroalimentaires privées, la coopérative agricole Limagrain, numéro 3 de la semence mondiale, etc. Dit pour la promotion quand même de l'économie sociale et solidaire, on peut compter sur eux. Quant aux mutuelles santé et assurance, elles sont entrées dans une concurrence sans merci suite à la déréglementation des années 2000.
Ouais. Il y a du vrai et du moins vrai dans ce qui est dit. C'est vrai qu'il y a des grandes coopératives qui, soumises à la concurrence, ont, de mon point de vue, à tort, développer des filiales commerciales privées qui, finalement, petit à petit, faisaient qu'on était moins ou pas du tout dans le domaine coopératif. C'est vrai dans des banques coopératives, c'est vrai avec des filiales qui étaient cotées en bourse. Mais, premièrement, il faut regarder l'ensemble du monde coopératif. Ça, c'est la partie que votre auditeur agite un peu pour faire un peu chiffon
rouge. Oui, mais c'est la plus visible, c'est celle dont on parle le plus souvent.
On est d'accord, c'est dont on parle le plus souvent, mais il ne faut pas que ceci occulte les milliers ou les centaines de milliers. Vous savez combien il y a de coopérateurs dans le monde, Philippe, il y a 1 milliard de coopérateurs. Donc il ne faut pas que ces exemples-là cachent l'intérêt de la formule coopérative. Et puis, il faut dire aussi que s'il y a eu, je pense, un certain nombre peut-être de dérapages, on a des coopératives qui sont en train plutôt de faire le chemin de revenir à leurs fondamentaux coopératifs. Et moi, je les encourage à ça.
Certains y reviennent parce qu'ils n'ont pas le choix.
Oui.
Finalement, la détérioration des grands marchés est telle que, finalement, on va recentrer son activité sur un territoire bien délimité. Mais ce que dit François, quand même, est plutôt juste. À l'égard d'une éthique d'une économie sociale et solidaire, on prend l'exemple, c'est pas pour les accuser de quoi que ce soit, mais on est quand même en dehors d'une éthique sociale, solidaire et durable. Acquisition de Limagrain, de Sidasia en Thaïlande, semences de grande culture, de Reka aux États-Unis, semences de grande culture, de Shamrock aux États-Unis, toujours semences potagères et renforcement de l'alliance Limagrain KWS dans Genetive pour développer des traits OGM destinés aux semences de maïs. Ouais, dites donc, c'est ça le social et solidaire?
Question rude pour moi. Non, moi
avocat du diable.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Il faut. Moi, je ne crois pas qu'il faille peindre les couleurs de l'économie sociale et solidaire comme si c'était un paradis. Donc, vous avez raison de poser cette question. D'une part, moi, je pense qu'il faut que les salariés, les consommateurs se mobilisent là-dessus. D'une certaine manière, il faut que les clients de ces organisations-là montrent s'ils sont pas contents ou si c'est pas ça qu'ils attendent de leur coopérative, qu'ils le fassent savoir. Mais encore une fois, je pense que il faut regarder l'ensemble de la vitalité coopérative qui répond aux besoins du monde d'aujourd'hui. Parce que finalement, dans cette mondialisation, ce qu'on voit concrètement des coopératives, c'est que aujourd'hui, elles se délocalisent beaucoup moins. Le fait que les coopératives, les décideurs, soient les clients ou les entrepreneurs ou les salariés, fait qu'on va beaucoup moins facilement fiche le camp. Donc, vous avez cité le cas des mutuelles d'assurance. Je suis désolé, mais les mutuelles d'assurance, les grandes mutuelles d'assurance, c'est des belles entreprises qui défendent un certain nombre de principes. Ils sont soumis à la concurrence, mais c'est difficile d'être soumis à la concurrence. Radio France aussi, je crois, est soumis à la concurrence. Non ?
Une autre question.
Vous voyez ? Donc,
sans vouloir insister, mais je le fais quand même, les gens têtus font ça, on est un peu bornés dans les carnets de campagne, Hugues Sibyl, c'est qu'avec la loi, l'ESS, qui invite aussi, en épousant une charte d'économie sociale et solidaire des entreprises commerciales, d'entrer dans ce grand bain de cette nouvelle économie, puisqu'on peut l'appeler comme ça, est-ce que ces entreprises nouvellement entrantes, qui peuvent être intéressées par le modèle coopératif, ne vont pas utiliser comme première référence les coups d'éclat, les grands groupes qui réussissent,
qui ont justement... Non, la réponse est non. D'abord, je voudrais vous citer un cas que je connais bien, le Crédit Coopératif, depuis longtemps, est une banque qui est pleinement une banque, mais aussi une banque coopérative, donc qui rend compte aujourd'hui à ses sociétaires où va l'argent, qui évite d'investir dans un certain nombre de domaines qui, sur le plan écologique, sont des investissements négatifs. Donc c'est possible d'être coopératif et de garder son âme. Et aujourd'hui, la loi Hamon dont vous avez parlé, la loi de 2014, va renforcer la révision coopérative. La révision coopérative, c'est que chaque coopérative devra rendre des comptes de ce qu'elle fait sur un certain nombre de principes coopératifs.
Première coopérative 1844, je crois, pour la naissance dans le monde, la genèse.
On a un certain âge et qu'on a franchi déjà des difficultés, qu'on est toujours vivant. On dit que la coopération est fille de la nécessité. Ça veut dire qu'en fait, les périodes difficiles au plan économique, en particulier la crise qu'on vit depuis 2008, fait qu'il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces types d'entreprises parce qu'ils se rendent compte que finalement elles sont plus solides et durables que des entreprises dans lesquelles on conduit au cours de l'action tous les trimestres. C'est pour ça que je suis défavorable aux filiales coopératives cotées en bourse. Mmh. C'est un non-sens. On ne doit pas diriger des entreprises coopératives en regardant le cours de la bourse.
Mais 170 ans plus tard, après la naissance de cet élan coopératif, pourquoi la coopérative ne s'est-elle pas davantage imposée en dehors de sa version classique de la coopérative agricole que l'on connaît depuis un siècle ?
Alors, d'abord, si on regarde les chiffres, par exemple les SCOP, les coopératives de production, elles se développent. Chaque année, il y a un nombre supérieur de créations de SCOP. Il y a quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent, c'est la reprise d'entreprise par les salariés. Parce que qu'est-ce qui connaît le mieux une entreprise ? Souvent, c'est ses salariés. Donc là, on a quand même des potentiels de développement qui sont en train de se faire jour. Puis il y a des formes nouvelles de coopératives qui apparaissent. Vous avez parlé des coopératives d'activité d'emploi, c'est génial. Vous en parlez dans Carnet de campagne de temps en temps. C'est des endroits où, au lieu d'être auto-entrepreneur tout seul dans son coin, on va développer son activité de designer, de taxi, mais on va le faire dans une coopérative d'activité, c'est-à-dire on n'est pas tout seul, on est dans un système de
et
solidarité.
Et on n'est plus plongé dans les papiers.
On n'est plus plongé dans les papiers, la coopérative s'en occupe, on a de la solidarité, on rencontre d'autres, si on a un coup dur, on vient se parler. Ça, c'est extrêmement moderne. Les coopératives d'intérêt collectif, on les voit se développer dans l'énergie. Donc, il y a des parties émergentes. Mais c'est vrai que c'est un combat difficile, parce que quand vous regardez le système économique global, il reste pas très favorable à ce type d'entreprise. Donc, c'est très bien qu'il y ait des médias comme le vôtre qui s'intéressent à ce type d'entreprise.
Merci, Hugues Sibyl, pour toute information sur les coopératives, sur le développement, les filières proposées par l'économie sociale et solidaire, les grandes questions de l'innovation sociale, du développement numérique. Vous allez sur le site du labo de l'ESS, c'est labo-ess.org, et vous aurez toutes les informations et puis vous aurez des liens évidemment aussi à notre page d'émission.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Alors je rectifie ce que je viens de dire, c'est le labo-ess.org, mais de toute façon, c'est la page de l'émission sur franceinter.fr, à notre page Facebook. Parmi d'autres formes de coopératives, il en est une qui fait son apparition dans les régions depuis quelque temps, c'est la coopérative d'habitants. Dans le Rhône particulièrement, à Villeurbanne, il y a eu le projet du village vertical, réalisé maintenant, dont nous avions parlé, et Colette, correspondante des carnets, nous confie la création actuellement d'une coopérative par des personnes vieillissantes, une coopérative d'habitants, c'est son expression, par des personnes vieillissantes. À Vaux-en-Velin, le projet voit le jour en 2009. Une association est fondée en 2010 sous le nom de Chamarelle, coopérative d'habitants, maison résidence de l'Est lyonnais. Fin 2012, les initiateurs de la coopérative, c'est-à-dire une poignée d'amis retraités, créent la société Chamarelle Les Barges, qui va construire et gérer un immeuble de 16 appartements et plusieurs espaces communs. Normalement, il va bientôt sortir de terre. Il est inspiré par l'expérience des Baba Yaga de Montreuil et le groupe de retraités est totalement engagé dans ce processus de vie partagée qui résout de nombreuses failles et faiblesses de l'habitat des personnes âgées. Et l'idée, c'est des liens intergénérationnels inédits entre le troisième et le quatrième âge. Ça, c'est très chouette. Allez sur le site, c'est coopérativechamarelle.wordpress.com. Et puis, il y a aussi le site du mouvement qui est à l'origine de cette opération. C'est On vaut mieux que ça, avec un beau jeu de mots sur vaut, V-A-U-L. X, avant de nous séparer, je vous rappelle que nous serons prochainement dans l'Essonne, le Val d'Oise. On attend des nouvelles de Val d'Oise et de l'heure à Quincieux, le jeu des 1000 euros.